Il est 18h15, à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la promotion du leadership féminin comme levier de développement social. En 1962, naît au Niger le premier mouvement féminin formel, l'Union des femmes du Niger, UFN. Cette organisation va devenir l'Association des femmes du Niger, AFN, avec l'avènement au pouvoir des forces armées nationales en 1975. Plus tard, d'autres mouvements féminins ont vu le jour, à l'exemple de la CONGAFEN, une des structures invitées sur ce forum. Elle regroupe 70 ONG et associations féminines nigériennes. Par la suite, plusieurs luttes sont menées pour le rehaussement du taux de scolarisation des jeunes filles, pour lutter contre le mariage précoce, la promotion des droits des femmes ou encore la question du quota de 15% aux postes électifs et 25% aux postes nominatifs qui ne sont d'ailleurs toujours pas effectifs. Mais comment promouvoir le leadership féminin? Qui doit le faire et à quel niveau afin de permettre aux femmes de participer pleinement au développement de leur communauté? Pour en savoir plus sur la question, nous avons convié autour de la table et au bout du fil Madame Harouna Fati de la Confédération des ONG et associations féminines CONGAFEN. Bonsoir Madame Fati.
Bonsoir.
Alors, ravie de vous avoir avec nous sur ce forum. Nous avons avec nous Monsieur Alou Aye, il est sociologue. Bonsoir Monsieur Alou.
Bonsoir.
Alors, nous avons Raya Issoufou Nadia, elle est de l'ONG Femmes Action et Développement FAD. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Au micro, je suis Rabia Meikanou. Alors, première partie de ce forum. Selon les données de 2012 de l'Institut National de la Statistique, la population du Niger est majoritairement féminine à une échelle excédant les 50%. Les observateurs estiment que la femme est au centre du développement d'un pays. Et notre pays compte aujourd'hui de nombreuses femmes leaders qui, sans nul doute, jouent un rôle important. Alors, Madame Fati, tout d'abord, comment définissez-vous le leadership féminin ou comment il se matérialise?
Merci de m'avoir donné la parole. Donc, le leadership féminin, c'est en général, comme tout le leadership féminin, c'est la façon dans laquelle un individu prend le devant d'un groupe pour une cause déterminée. Le mécanisme du leadership féminin au Niger, je dis beaucoup de choses. Parce que nous avons d'abord la définition du leadership féminin qui fait de se définir comme l'exercice du pouvoir de décision par des femmes ou organisations de femmes en vue de l'utilisation des capacités personnelles propres pour la réalisation et l'atteinte des objectifs. Donc, en cette position, vraiment, les femmes ont joué un rôle important. Vous avez commencé à faire la jeunesse.
Oui, oui.
Le mouvement féminin. Et vous avez vu, on prend l'exemple du 13 mai. C'est grâce à la leadership des femmes que nous avons pu arracher certains acquis. Par exemple, le ministère de la femme, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Vous savez que c'est des fois que c'est le mouvement féminin, les femmes leaders ont pu acquérir ce ministère.
Oui, et alors vraiment, on se demande, Madame Fati, aujourd'hui, comment se porte le leadership féminin au Niger, alors?
Le leadership féminin, il se porte à merveille. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la solidarité féminine qu'elle prévoit.
Oui, nous reviendrons sur les solutions, sur comment booster ce leadership. Mais voilà, nous aimerons bien faire un état des lieux aujourd'hui de ce leadership féminin au Niger.
Oui, l'état des lieux du leadership féminin, je peux dire que vraiment le leadership féminin, il évolue. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'ONG FAD à côté de vous. Ce sont des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont créé leur structure et qui sont des vrais leaders. À l'image des jeunes filles de la FADA. Et donc, tout le monde le connaît, ses capacités chef de capacité managériale, vraiment, elle est un bon leader qui est là au-devant d'un groupe. Le leadership, on ne peut pas parler de leadership des jeunes sans parler de l'OMG, pas de qui a fait ses preuves. Il y a beaucoup de mouvements féminins qui sont en train de se créer. On peut dire que le mouvement féminin, il se porte à merveille.
Il y a des avancées alors.
Oui, il y a des avancées parce que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles structures qui naissent. Et ça, c'est Dieu me dit, parce que ça renforce nos capacités. Les anciens structures vont être renforcées au niveau du mouvement pour réclamer leurs droits. Donc vraiment, je crois que le mouvement, le leadership féminin se porte à merveille parce qu'il y a eu un niveau de conscience collective qui fait que les femmes sont en train de créer plusieurs mouvements. Aujourd'hui, vous dites la condamnation. Elle est la spécière, qu'on le veuille ou pas au leader, c'est la première chose de structure qui a été à regrouper. Au moins plus de 70 ONG et associations féminines qui sont affiliées à la Congrès. Déjà, c'est un natif. Il y a d'autres qui sont des nouvelles qui ne sont pas en train de venir. Donc, on pense que le mouvement est en train de s'agrandir. Et s'il est en train de s'agrandir, c'est-à-dire qu'il y a une nette progression. On ne peut plus parler de régression au niveau du mouvement féminin.
Oui, on parle plutôt d'une prise de conscience collective, comme vous l'avez dit. Alors, Madame Nadia, je reviens vers vous. Vous êtes de l'ONG FAD. Alors, vous faites partie de cette équipe, comme l'a dit Madame Fatih, de femmes, de jeunes femmes leaders. Alors, dites-nous, pour vous, c'est quoi être une femme leader? Et quel objectif vous visez?
Merci beaucoup pour cette belle question. Je dirais que pour moi, la femme leader, c'est vraiment cette femme qui a déjà conscience de son potentiel. C'est cette femme qui a conscience de son potentiel et qui a cette capacité à pouvoir influencer d'autres personnes positivement, à changer ce qui ne va pas, à apporter une touche personnelle de manière très authentique au changement dans son environnement.
Ok, alors quelles sont les actions que vous menez pour le développement du pays au niveau de votre structure? Parlez-nous d'un cas concret à titre d'illustration.
Waouh, il y a beaucoup de cas. Okay. Mais dans cette situation actuelle, je pense que l'une de nos plus grandes fiertés est vraiment l'assise patriotique qu'on a eu à faire en 2023, juste après la situation de transition dans laquelle on était. Et le premier réflexe qu'on a eu en tant qu'organisation féminine, c'est de rassembler les femmes ensemble, de créer un cadre de sororité et de solidarité entre les femmes pour qu'elles arrivent réellement à avoir une vision sur la situation actuelle et qu'elles arrivent à s'inquiéter même de leurs droits déjà acquis, comme Madame les a évoqués tout à l'heure, et surtout qu'elles arrivent à avoir un esprit commun actif pour aller parler, essayer de communiquer à travers un dialogue diplomatique pour faire valoir en fait leurs droits, rappeler leurs acquis et surtout faire savoir que dans tous les cas, on voudra réellement que nos droits ne soient pas piétinés tout au long de cette transition.
Alors, Monsieur Alouaïe, vous êtes sociologue. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ce mouvement des femmes et de l'engagement des femmes nigériennes en matière de leadership?
Merci bien. L'appréciation peut-être que nous pouvons faire, que nous pouvons apporter en ce qui concerne la dynamique dans laquelle les femmes, d'une manière globale, mais plus précisément, un certain nombre de mouvements de femmes ont pris le devant dans le cadre de la revendication ou de l'exigence ou de la reconnaissance d'un certain nombre de leurs droits. Je pense que cette lecture doit être plus ou moins positive. Positive dans la mesure où, depuis l'avènement de la démocratie, nous constatons de plus en plus, en tout cas, un éveil en termes de conscience, mais également en termes de pratique de tous les jours. C'est vrai, à un moment donné, c'était beaucoup plus de théories, beaucoup plus de paroles pour sensibiliser, amener la femme à prendre conscience du rôle d'abord, de son statut qu'elle a dans la société, dans la communauté. Mais au-delà, par après, nous avons vu beaucoup des actions qui tendent vers des actions d'autonomisation de la femme. Parce que, pour parler de leadership, il faudrait, comme les deux intervenants l'ont déjà dit, il faudrait rappeler que c'est cette capacité que l'être humain a à pouvoir apporter et à influencer positivement les autres membres de la communauté afin que la communauté d'une manière globale puisse se développer. Eh bien, dans ce sens, la femme doit avoir fondamentalement un rôle qu'elle doit jouer dans cette dynamique. Il se trouve que, je pense en partant même de la définition, il y a deux paramètres sur lesquels nous devrons revenir. Le premier paramètre, c'est le rôle que la femme avait dans la société traditionnelle, dans la société nigérienne traditionnellement parlant. Mm-hmm. Et le deuxième paramètre, c'est celui maintenant qu'elle est en train d'acquérir sur le plan de l'action, sur le plan de la visibilité au même titre que l'homme. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, il faut reconnaître que dans nos deux situations, la femme a toujours ce pouvoir d'influence.
Alors, selon vous, quelle éducation, par qui et à quel niveau pour former les femmes leaders de demain dont on a besoin dans notre société?
Merci. Je pense que pour cette question d'éducation, fondamentalement, ça devrait commencer par la base. Mm-hmm. Et la base, c'est la cellule familiale. Et c'est pourquoi à chaque instant, j'ai l'habitude de le dire lorsqu'on m'invite à des rencontres parées. J'ai toujours dit que si aujourd'hui nous avons des problèmes en termes de leadership féminin, il faudrait reconnaître que les femmes sont elles-mêmes coupables. Coupables parce que la charge primordiale en termes d'éducation repose sur la femme. Et lorsque vous décidez, en tout cas, d'éduquer votre enfant pour qu'il ait cette personnalité, parce qu'on ne peut pas devenir leader comme ça. Il faudrait que l'enfant ait confiance en lui-même. Donc la petite fille, dès le bas âge, qu'elle comprenne du moins qu'elle peut avoir confiance en elle-même, qu'elle peut jouer un rôle dans la société au même titre que son frère garçon. Lorsque, or tout ça là, c'est une question de stéréotypes liés à l'éducation. Ou bien, si la femme, une mère aujourd'hui, décide de d'éduquer sa fille au même titre que le petit garçon, elle va acquérir les mêmes valeurs en termes de bravoure, en termes de courage, en termes d'honnêteté, en termes d'influence que le petit garçon.
Et de confiance en soi. Alors, Madame Fatih, on revient vers vous. Alors, dites-nous, sur ce plan éducation, formation de femmes leaders, comment vous accompagnez ces femmes? Et qu'est-ce que vous menez comme action pour qu'elles prennent justement conscience du rôle qu'elles doivent jouer et de la façon dont elles doivent impacter positivement leur communauté?
En tout cas, nous, à la Fondation Pro-Santé, nous avons d'abord un programme bien défini, qui est le programme de renforcement des capacités des femmes sur leurs droits, les droits de la femme, les acquis et les perspectives. Nous faisons des sensibilisations, des masses, et nous collaborons avec les médias pour une grande audience. Oui. À cause de l'autre audience, nous sommes en collaboration avec les médias pour diffuser certains messages. Il y a des messages que nous diffusons, il y a des forums que nous organisons. Il y a des choses que nous organisons
intergénérationnelles, oui.
Il y a des voies de tout que nous entretenons. Afin de savoir au niveau de tel pays, quel est le support d'avancer. Donc, en termes d'avancer, il y a les luttes que nous menons ensemble, les combats. Chaque fois qu'il y a une violation de nos droits, nous nous mettons ensemble avec nos autres pères et nous menons le combat ensemble. Donc, vraiment, nous faisons des activités et dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Parce que, quoi qu'on dise, quand une femme n'est pas autonome, elle ne peut pas se développer. Nous développons en fait sa contribution. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, nous avons créé un partenariat avec la mission des femmes et des crédits maigres. Nous organisons les femmes en groupement. Ces femmes-là, elles sont appuyées par la maigresse du point de vue crédit qu'elle leur appuie dans le cadre de l'embauche de résilience, une forme d'embauche qui n'est pas l'embauche traditionnelle que nous connaissons, dans le cadre de l'appui aux AGR et dans le cadre de l'appui à la chaîne de valeur agricole et élevage. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes que nous avons organisées et nous nous intéressons surtout aux femmes rurales. Par exemple, dans la région de Philadelphie, nous avons organisé plus de 70 groupements à qui on a octroyé des crédits. Puis présentement, on peut aller vérifier sur place, c'est pas pour agrémenter la côte. Le bilan est là jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini. Et c'est grâce aux interventions de la Fondation. Un peu partout, à Zander, nous avons fait la même chose. Aujourd'hui, présentement, je suis à Maradi, dans le même cadre, dans le cadre de l'autorisation de ces femmes. Parce que je vous dis, ce volet est très important. Tant que la femme est dépendante, la femme ne peut pas avancer. Oui. On ne peut pas exister. Il faut qu'on soit indépendant sur le plan économique, le plan culturel, social, au niveau de l'éducation, un peu partout dans tous les domaines. Il faut que les femmes aient leur indépendance. Et puis, au niveau politique, nous donnons une dispensation de formation sur la participation politique des femmes. Pas la participation en tant que représentation. Mm-hmm. Non, en termes de représentativité, en termes de qualité, c'est cette culture que nous impliquons à nos membres et aux autres concerts. Donc, vraiment, nous sommes en train de faire du travail sur le terrain.
Oui, vous êtes à Maradi et je profite déjà pour vous remercier parce que vous êtes à nos côtés malgré l'instabilité du réseau. Alors, on revient vers Nadia de Madame Nadia de l'ONG FAD. À votre niveau, comment vous intervenez dans cet aspect formation des femmes et des jeunes femmes? Comment vous les accompagnez vraiment dans ce processus de femmes leaders qu'elles doivent devenir?
Il faut savoir qu'on intervient dans 4 volets. D'abord, le volet éducatif. Dans ce premier volet, on a les jeunes. On touche vraiment la cible la plus jeune, à savoir essayer de toucher en bonne et due forme le système éducatif de le bas âge, en essayant de les protéger contre les VBG, en essayant de les informer, mais aussi en essayant de leur donner de l'ambition. Dès le bas âge, qu'elles comprennent qu'elles ont le droit d'avoir des ambitions, de leur faciliter même l'accès même à l'éducation. Nous avons notre deuxième volet, à savoir le volet gouvernance politique et sécuritaire. Dans ce volet, on travaille vraiment à une prise de conscience des femmes en général, mais aussi des jeunes filles.
Okay.
Qu'elles prennent conscience de leur rôle dans le domaine politique, qu'elles sachent qu'elles n'ont pas qu'un rôle d'électrice à jouer, mais qu'elles ont vraiment le droit, la possibilité et même l'opportunité de pouvoir faire des propositions fructueuses pour résoudre des problèmes du Niger. Donc, sur le volet santé VBG, on accompagne à travers vraiment l'hygiène, comment leur apprendre réellement à vivre tout en étant dans un environnement assez sain. Et enfin, dans le volet éducation, non seulement nous formons, nous accompagnons à travers des subventions ou des mini-subventions, nous facilitons même les relations, l'interaction entre ces femmes, entre elles et plusieurs autres acteurs du domaine. Voilà ce que je pourrais dire pour ce qu'on fait vraiment dans le dos, dans l'accompagnement des femmes.
Alors, chers auditeurs, pour la deuxième partie de ce forum, nous mettrons l'accent sur les défis et obstacles auxquels les femmes leaders sont confrontées ici au Niger. Oui, Madame Fatih. Nous attaquons la deuxième partie de notre forum. Selon vous, quels sont les plus grands problèmes dans votre lutte de tous les jours?
Notre grand problème, c'est-à-dire, je vais commencer à dire ce que les jeunes ne veulent pas entendre, c'est-à-dire la solidarité des lignes et la synergisation. Vraiment, il faut que nous soyons solidaires et que nous interrompions la hache de guerre. Le problème de leadership,
oui.
On ne devient pas général par le hasard, je le dis toujours. Il n'est pas donné à n'importe qui de diriger un groupe et de l'implémenter comme ça se doit. Donc, il n'est pas donné à n'importe qui d'être comme ça. Maintenant, notre second problème, c'est qu'au niveau de l'État même, parce que dans nos activités, je vous ai dit que même le combat, c'est-à-dire les plaidoyers envers le gouvernement et le Parlement, qui sont les décisionnaires de choses, maintenant, au niveau du gouvernement, nous ne pouvons pas, de quoi, signer des choses, prendre des décisions nous-mêmes, prendre des actes et ne pas les respecter. Nous sommes confrontés à l'ineffectivité. Ça, c'est un défi majeur de loi. Nous ne pouvons pas, une loi qui est là sur le quota, par exemple, quand vous prenez. Même aujourd'hui, la loi sur le quota, on peut dire qu'elle n'est pas respectée. Tout ça, là, c'est un frein à notre avancée. Pour que nous puissions avancer, nous puissions avoir nos lois là. Il faut que le gouvernement, vraiment, qu'il respecte les lois dont il s'est lui-même donné. Maintenant, il y a les présentations socio-culturelles. Qui nous freine. Il y a l'évolution des partis politiques. Il y a la méconnaissance. Parce que quand je dis la méconnaissance, moi je ne veux pas parler d'ignorance parce qu'un adulte a ses propres connaissances, a ses propres expériences. Mais je veux parler de méconnaissance. Aujourd'hui dans la politique, parce que qu'est-ce qui fait avancer? Pour accéder au poste de décision, vraiment il faut que la femme participe activement. Mais elle participe, quelle est sa manière de participer? C'est pas participer pour participer. Il faut être actif et il faut être au centre des décisions. Il ne faut pas rentrer en politique bêtement, comme vous devenez, nous devenons les principales mobilisatrices. Mais quand tout est fini, quand le pouvoir est dans les mains des hommes, maintenant on nous met de côté. Parce que ce qui est bizarre, le grand défi encore, ici, quand vous prenez tous les textes, aucun texte de loi n'est discriminatoire envers la femme au Niger. Mais malheureusement, en pratique, nous sommes discriminés.
Dans l'application, oui.
Mais quand tout ça, là, c'est un grand défi. Nous avons vraiment beaucoup de défis qui sont là. Il y a la pauvreté. On dit, vous m'excusez, on dit qu'il y a un caractère, un visage féminin. Et ça, c'est la triste réalité. Les femmes n'ont pas de moyens et l'État doit créer les conditions pour que les femmes soient autonomes. En tout cas, si c'est les textes, nous avons des beaux textes du monde. Si c'est les engagements, nous avons les beaux et les plus grands engagements du monde. Nous avons les beaux textes, mais dans l'application, il y a problème.
Oui, c'est l'application qui pose problème. Voilà, sur le terrain, la pratique de l'application de ces textes fait vraiment défaut. Alors,
de deux fois deux mesures, on ne peut pas écarter plus de 51% de la population et prétendre développer son pays.
Oui, accéder au développement. Alors, justement, maintenant, on revient vers Madame Nadia. En tant que femme leader qui veut vraiment ou qui travaille, qui œuvre pour impacter positivement sa communauté, quelles sont vos contraintes quand vous êtes déjà dans l'action, comme chez vous, vous êtes déjà action, femme, action et développement?
L'une des plus grandes contraintes que je pourrais évoquer, c'est vraiment nous-mêmes les femmes, notre discipline. Quand on a un leadership, il doit être de qualité et très discipliné. Il faudra moi-même en tant que femme que j'arrive à me fixer certaines limites de mes actions, de ma manière de faire, pour pouvoir imposer naturellement le respect et acquérir ce dont j'ai besoin. Mais si on part, parce que si on rentre dans une optique de « je suis femme », on doit me faire, mais qu'est-ce que j'ai à apporter pour qu'on me donne?
Oui, sur la table, oui.
Oui, c'est vraiment de me discipliner, d'acquérir ce qu'il faut pour que j'aie ce dont j'ai besoin. Il faudra réellement, le plus grand défi, c'est de voir des jeunes filles où on se bat tellement pour qu'elles soient conscientes des opportunités, mais qui viennent, il n'y a pas cette fougue. Moi, je me dis qu'en tant que jeune, quand j'ai une activité et que je viens rencontrer des jeunes, je m'attends à les voir mieux s'approprier cette activité que moi.
Oui.
De même que quand quelqu'un me donne l'opportunité de participer à quelque chose, j'essaie de m'approprier l'action. Parce que c'est à mon bénéfice. C'est pas que de ne pas vraiment se limiter juste à l'aspect être là pour être là. Ou bien être leader d'action, mais leader du comportement. Qu'on réflète le leadership à nous, en premier lieu. En deuxième lieu, l'un des plus grands défis, c'est vraiment l'absence de masculinité positive sur laquelle on travaille aujourd'hui. Le fait que, moi je comprends parfaitement que certains hommes n'arrivent pas à accepter ce leadership parce qu'ils n'ont pas grandi avec. Donc, je suis vraiment, quand on est confronté à ces genres de situations où il y a des hommes qui sont catégoriques, ils ne supportent pas. Et c'est même pas que les hommes. Il y a aussi des femmes qui supportent pas le leadership des femmes. Mais vraiment, ce manque de masculinité positive et l'approche même que nous utilisons en tant que des organisations, on devra partir leadership féminin, masculinité positive. Parce que ça sert à rien de donner aux femmes tout un arsenal de pouvoir et après se retrouver dans une société conflictuelle.
Ouais.
Mais il faudra donner aux femmes et donner aux hommes pour qu'ils arrivent à accepter ce que les femmes ont pu avoir. L'esprit d'initiative. Que les femmes, qu'on arrive réellement, sans attente, mener des initiatives à l'endroit de la communauté. Par exemple, si je me retrouve dans un cadre d'atelier et qu'on me donne des outils, je ne veux pas attendre que l'atelier me suive pour un suivi, pour que je mène mes actions. Moi-même, et c'est tellement machallah.
Personnellement, cet engagement personnel.
Effectivement. Il y a eu des mouvements après la rencontre avec les 300 femmes, des mouvements, le mouvement des MRDFN qui a été mis en place. Là, on avait vu de la proactivité. J'en ai la chair de poule parce que j'étais là et j'étais fière de voir autant de femmes
se mobiliser. Et d'appartenir à ce mouvement.
Voilà, et faire des actions naturellement, elle nous envoie juste des images pour dire on a fait telle action. On a fait telle action. Et c'est sans attente. Et il faudra que nous, les jeunes filles, qu'on rentre dans cette optique. Faire des actions pour la communauté, d'abord le faire sans attente.
Voilà, un engagement vraiment personnel et désintéressé, comme le note Madame Nadia. Monsieur Aloyer, alors vous avez cette vue d'ensemble. Nous allons d'abord aller sur cette masculinité positive qui fait défaut dans beaucoup de débats autour de cette thématique. Alors, selon vous, comment, vraiment, sur quoi il faut mettre l'accent? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la formule pour, dites-nous.
Merci bien. La formule, je pense, c'est d'abord une question de perception. Et peut-être aux premières heures de l'avènement de ce leadership féminin, les hommes ont mal compris,
interprété l'action.
Parce que c'est comme si quelque part, on est en train de vouloir faire une sorte d'opposition entre l'homme et la femme. Parce que, comme je l'avais un peu expliqué au début, la femme était au second plan, sur le plan social et culturel. Mais aujourd'hui, elle décide de rentrer dans le champ d'intervention de l'homme. Mais pour que ça soit, il faudrait qu'il y ait véritablement une sorte d'harmonie, oui, de dialogue, de compréhension.
De
que l'homme puisse comprendre que c'est plutôt une complémentarité au lieu d'une concurrence. Si on arrive à percevoir les choses dans cette lancée, dans cette vision, je pense qu'on peut véritablement évoluer ensemble en harmonie parce que l'intérêt commun en ce moment-là sera toute la société ou la cellule familiale. Mais tant que l'homme, dans son rôle régalien, se sentira menacé par la femme, il va s'opposer catégoriquement.
Ah, c'est systématique.
Et là, c'est systématique. Et là, nous serons dans une sorte de conflit ouvert entre d'une part l'homme et de l'autre part la femme. Alors là, ce n'est pas dans le bien ou dans une sorte de positivité. Ça ne sera pas bien ni pour l'homme, encore moins pour la femme, à plus forte raison pour toute la cellule ou la communauté. Donc moi, je pense que d'abord, pour résoudre ce problème, il faudrait partir vers l'appréhension. Comment les hommes vont percevoir les actions des femmes qu'elles auront amenées dans leur champ. Parce que c'était un champ socialement qui était destiné ou dédié à l'homme. Être au devant, prendre les initiatives au nom de la communauté. La femme ne le faisait pas. Même si par ailleurs, comme l'avait dit, elle peut influencer dans les prises de position des hommes, mais aujourd'hui, elle aimerait être au devant, aux côtés de l'homme, pour pouvoir harmoniser et développer la cellule ou
voilà,
la communauté.
Voilà, la formule, c'est aux côtés.
Effectivement,
aux côtés,
de l'homme.
Voilà.
Pour l'assister afin de relever les défis qui se présentent à nous. Mais tant qu'on n'arrive pas à créer un cadre harmonieux où le dialogue sera l'élément phare, où la communication, la compréhension sera l'élément phare, je pense que nous allons plonger dans des conflits.
Revenons alors sur cette question de stéréotypes qui entourent la femme et son leadership à son niveau et au niveau des hommes, comme vous venez de le soulever. Est-ce que vraiment ces stéréotypes bloquent ce développement du leadership?
Mais évidemment.
Oui.
Évidemment, parce que vous savez c'est quoi? Chaque être humain que vous voyez n'est que la résultante du moule social dans lequel il a été façonné. Que ce soit l'homme ou la femme, nous avons tous été façonnés dans un moule avec pour résultat à la femme d'être une bonne femme au foyer. C'est ça la logique sociale dans laquelle nous avons évolué. Pour l'homme, c'est d'être un bon homme, chef de famille.
Oui.
Donc, tant que ce moule-là, social n'a pas été revisité, pour que les mêmes ingrédients qui seront mis au moment de la fabrication, on appelle ça fabrication de l'homme,
mm-hmm,
homme genre masculin,
mm-hmm,
et les mêmes ingrédients dans la fabrication de la femme, eh bien nous n'aurons pas le même résultat.
Mm-hmm.
Nous allons toujours avoir des résultats qui sont pleins de ces stéréotypes. Parce que imagine bien, je vais vous donner un exemple très palpable. À chaque instant que la jeune fille va sortir au dehors, elle sera tabassée par exemple par quelqu'un d'autre. Elle rentre en pleurs à la maison. Le premier réflexe est de la maman et de ses frères: qui t'a frappé? Tais-toi. Va essayer de la calmer. et savoir qui l'a frappé, pour qu'on aille défendre, pour qu'on aille prendre sa défense. La maman va généralement envoyer son frère s'il le faut pour qu'elle puisse prendre sa défense. Mais lorsqu'il s'agit du petit garçon qui va rentrer en pleurant, la première des choses qui t'a frappé, si on comprend que c'est un égal à lui, tais-toi, Al-Borsihi. Je le dis en langue pour que vous puissiez mieux comprendre. Tais-toi, l'homme ne pleure pas. Là, on fait quoi? On construit en lui le courage, la bravoure, la capacité de tenir. Mais à la femme, on lui dit non, tais-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui est susceptible de te défendre.
Qui est là pour te défendre.
Et là, en fin de compte, forcément, même si elle sera grande, elle va toujours se couvrir dans ce sentiment qu'il y aura quelqu'un qui va la défendre.
Elle sera incapable de puiser en elle cette force pour faire face à ses problèmes. Alors, dites-nous, quel intérêt, Madame Fatih, vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Alors, on revient vers vous. Alors, quel intérêt pour une communauté, pour un pays, d'avoir des femmes épanouies, confiantes et impliquées dans la marche de cette communauté, plus encore de leur pays ?
Merci. Par exemple, les femmes. On dit que bien que le leadership soit fréquemment considéré comme un acquis que les hommes sont des leaders naturels, les femmes n'en disposent pas, n'en possèdent pas moins d'excellentes qualités de leader.
Oui.
Les femmes africaines ont toujours été leaders capables de gérer de maigres ressources pour aider leur famille et leur communauté à traverser le moment difficile.
Oui.
Les femmes savent comment provoquer les événements. Elles sont habituées à exécuter plusieurs tâches à la fois et à gérer plusieurs crises simultanées. Les femmes travaillent bien en équipe et sont suivantes du succès. Les femmes, on ne peut pas les mettre à l'écart et faire en termes de développement parce qu'elles sont les principales activistes. En tant que mère, épouse, du conseiller, lui-même qui dit quand un problème se soulève, quand vous entendez un homme d'État dire que il faut demain on remet ou bien un chef traditionnel ou quoi que ce soit un leader homme, il dit on remet ça à demain. Il va où? Il va à côté de sa conseillère qui n'est autre que la femme.
Oui.
Donc c'est elle qui va lui donner les conseils et la nuit et dans les conseils, il vient, il travaille avec ses conseils et vraiment en trouve une position. Donc c'est la femme en vertu de ce pouvoir d'influence qu'elle a. Elle peut influencer, elle peut aider. Et les femmes, vous savez qu'elles sont des bonnes gestionnaires. Dans le management des ressources là, les femmes sont les meilleures. Aujourd'hui, quand on parle de gestionnement, est-ce que toutes les 100 personnes qu'on prétend être des gestionnaires, est-ce que vous avez entendu plus de deux ou une femme?
Oui.
Les femmes sont des bonnes gestionnaires, elles sont des bonnes travailleuses. Il faut qu'on les mette dans les conditions quand elles deviennent autonomes. Socialement, économiquement, vraiment, je pense que le développement ne pose pas de problème. Et en matière de paix, vous êtes quelqu'un ambassadrice de la paix. Parce que quand le développement social ou économique ne peut s'opérer sans la paix. Et la femme, elle veut la paix. Parce que sa force émotionnelle lui a permis d'aller vers le camp adverse pour faire la paix. Vous prenez le colonel Isaac Ousmane Aïchatou. Est-ce que la paix, elle a été primée meilleure soldat africaine?
Oui.
Du même temps de la paix à l'aménagement en 2015, et primaire mondiale en 2016. Elle a eu deux trophées qui a fait du Niger vraiment un havre de paix. Donc, vraiment, on sait que la femme a une contribution positive, et comme vous lui donnez le nom de ressources, elle est bien, et la femme est le point de développement. Aujourd'hui, quand vous prenez les meilleures familles qui sont arrivées, qui est devant, c'est que c'est la fille qu'on a mis à l'école, elle est devenue quelque chose parce que. Elle ne s'occupe que de sa famille, elle ne s'occupe que de la maison, que de son pays. Alors lui, le garçon, quand il trouve quelque chose, même en Brousse aujourd'hui, je viens de le dire, on dit Monsieur Nia, parce que c'est ses beaux parents, mais elle, Madame Nia, parce que Madame, elle amène dans la famille, et maintenant, même pour payer les impôts, ça fait avancer le pays, et cette famille n'a pas de problème. Donc la femme, comme elle constitue le couloir de transmission de la parenté, en vertu de ce pouvoir que là, la femme peut aider, peut développer le pays. Et c'est pas, les femmes ne sont pas paresseuses au leader. On le voit combien de femmes entrepreneurs nous avons. Combien de femmes entrepreneurs. Nous avons des femmes entrepreneurs qui ont démontré leur capacité. Donc, au même titre que les hommes, je ne dis pas l'égalité biologique en termes de choses, mais l'équité, l'égalité des choses là. il faut que ça soit une effectivité. La prise en compte du sable, il faut qu'elle soit une réalité à tous les niveaux. Et dans les prises de décision, il faut que les femmes soient représentées. Parce qu'aujourd'hui, vous craignez que nous, gouverneurs de région, aucune femme. Est-ce que nous, les femmes, là, on ne peut pas être gouverneurs de région? On peut bien diriger plus que les hommes. Mais il ne faut pas nous mettre en arrière.
Oui,
nous,
oui,
du combat, dans le développement, il faut que nous soyons impliqués. Nous, on nos enfants, les jeunes. Parce que les jeunes aussi, c'est une bombe à retardement, il faut qu'on fasse attention. C'est oui. Une force motrice qui est là, qui est cachée, qui est capable de tout, de révolutionner. Les femmes sont capables de créer une génération consciente, capable de développer ce pays et de libérer sa souveraineté. On ne peut pas développer, pour exemple, développer son pays et exclure une catégorie de gens. Il faut que ça soit clair. Il faut que les femmes soient impliquées parce qu'elles doivent montrer de quoi elles sont capables. Elles peuvent révolutionner, elles peuvent soulever la montagne. Donc, en vertu de tous ces pouvoirs-là que les femmes ont, on est obligé de les impliquer de A à Z. Quand tu m'en donnes les préfectures, on nous dit que, ah, préfet, par exemple, il est une zone d'insécurité. Moi, je viens de Anguru chaque matin que la maîtresse elle est sur la route. Oui. L'insécurité, là, c'est quelque chose de notre destin, mais pas entre les mains des hommes.
Oui.
Donc, pour ça, là, moi, je pense que les femmes au Niger, il y a des femmes qui sont capables. Seulement, il ne faut pas faire la culture de la médiocrité. Nous, à la Congatène, on cultive l'excellence.
Oui.
Le mérite et l'excellence.
Les femmes doivent prendre conscience de leurs capacités et vraiment s'engager sérieusement, comme l'a dit tout à l'heure Madame Nadia de l'ONG FAD. Alors, nous allons...
Oui, en tout cas, moi, je sais. Ici, même ici, au niveau rural, comme nous travaillons beaucoup avec les femmes rurales, parce qu'à Niamey, là, c'est quoi? Niamey, nous ne représentons pas le Niger.
Oui, oui.
Les
oui.
femmes rurales, vous partez, vous allez voir des femmes qui vont vous prendre la parole et qui vont vous montrer aujourd'hui, j'ai trouvé une femme, de femmes qui a construit deux magasins pour le warrantage et qui a payé de leur propre intérêt un terrain et ils ont même construit une maison et équipé le CSI de Hannou Gazani.
Hannou Gazani.
Oui. Je viens de là-bas tout de suite. Et à Alger, c'était la même chose. C'était des choses miraculeuses que des femmes. Est-ce que quelqu'un qui construit un CSI pour l'équipe, ce n'est pas une contribution pour le programme de l'État, c'est une contribution pour le développement du pays.
Alors, Madame Fatih,
les
femmes, et comme vous l'avez dit, elles peuvent vraiment impacter positivement leur communauté, mais elles ont besoin de cet accompagnement, elles ont besoin de ce terrain, qu'on leur fasse confiance. Alors, on va revenir vers Madame Nadia. Alors, à votre avis, sur quel point il faut mettre l'accent pour vraiment faire participer les femmes pleinement au développement de leur communauté? Sur quel point il faut vraiment appuyer pour aller plus vite?
D'accord, merci beaucoup. Sur le point à appuyer, je dirais que tout d'abord, il faut partir vers... Ça dépend de la cible, d'abord. Il y a, comme madame l'a dit, il y a la cible communautaire. Cette cible, elle a ses besoins spécifiques, qui lui sont propres. Et il y a les cibles qui sont vraiment dans les régions. Dans les régions, c'est dont elles ont plus besoin parce qu'elles ont le terrain même plus facile. Là, c'est vraiment une prise de conscience. L'accompagnement, comme Madame le fait, et plusieurs organisations, c'est l'accompagnement vers une prise de conscience, vers la solidarité, et surtout vers une vision. Mais pas une seule vision, une vision commune entre femmes. Maintenant, dans le milieu rural, c'est qu'il faut, le point sur lequel il faut appuyer, c'est que ces femmes sont des femmes fortes, comme elle a dit. Elles, ce sont des femmes qui ont plus de prise d'initiative que même celles qui sont en milieu urbain. Donc, elles, c'est vraiment continuer à appuyer sur leur action déjà qu'elles sont en train de faire. Leur action d'autonomisation. Parce que souvent, il y a une erreur qu'on fait, c'est de vouloir mettre les mêmes... prendre les solutions pour les femmes en milieu urbain et vouloir amener et les faire inspirer à vivre la vie des femmes du milieu urbain au lieu de faire prospérer ce qu'elles font déjà dans leur milieu. Ouais. Donc vraiment, le point sur lequel il faut appuyer en milieu rural, c'est vraiment l'autonomisation de ces femmes et apporter plus d'opportunités, plus d'accompagnement et en sachant combiner ces opportunités qu'elles ont, ce qu'elles font et l'actualité, la modernisation. Oui. Pouvoir, par exemple, le numérique, si on leur apporte du numérique, même si ce n'est pas elles directement, à travers leurs enfants, qui sont déjà à l'école et qui peuvent manipuler les outils numériques, pouvoir les amener à faire voir au monde ce qu'elles font.
Oui. Alors, c'est vraiment cet apport de solutions bien ciblées et en fonction vraiment des besoins de ces femmes. Alors, monsieur Alou Aye, selon vous, comment mieux parvenir à cette inclusion? Vous allez nous clore ce débat. On est bientôt à la fin du temps accordé. Alors, comment vraiment parvenir à cette inclusion?
Merci bien. Je pense bien que pour réussir l'inclusion, je dirais l'inclusion sociale de la femme dans cette marche de l'humanité ou de notre communauté pour son développement ou pour son bien-être, j'avoue, il faudrait un certain nombre de paramètres. Peut-être je vais mettre l'accent sur deux. Le premier, c'est d'abord l'éducation-sensibilisation. Pour que nous ayons une certaine prise de conscience, pour que nous ayons une certaine vision de toutes les femmes. D'abord individuellement pris, ensuite collectivement. Parce que tant que la conscience n'y est pas, par rapport à mes droits, par rapport à mes devoirs, et surtout par rapport à mon rôle social, tout ce que nous aurons à faire sera un échec. Donc il faudrait forcément assurer cet aspect-là, le premier palier. Le deuxième palier, c'est de partir vers cette autonomisation. Parce que les études ont démontré à chaque instant que la femme a une portion de pouvoir. Pouvoir économique, je dis bien. Elle a été toujours écoutée par l'homme. À chaque instant qu'elle a cette possibilité d'apporter un plus dans le foyer, dans la gestion du foyer, dans la gestion de la communauté, eh bien le regard de l'homme change vis-à-vis d'elle. Mais aussi longtemps que la femme sera dépourvue de ce pouvoir économique, que la femme sera dans l'incapacité d'initier, de prospérer, de donner, d'apporter un plus, une plus-value à la communauté, lorsqu'elle sera dans son rôle de tendre la main, de l'attente vis-à-vis de l'autre pour que lui l'amène, eh bien, elle sera malheureusement toujours au second rang et par conséquent, elle risque d'être marginalisée. Donc, pour qu'il y ait cette inclusion, cette prise de conscience, cette collaboration et surtout, si vous voulez, cette complémentarité de l'homme et de la femme pour résoudre le problème de la société, il faudrait, je pense, que nous puissions d'abord résoudre ces deux aspects. Sensibilisation, éducation, autonomisation, pour que les uns et les autres puissent évoluer ensemble.
Alors, nous sommes au terme de ce forum, mais nous retenons que le leadership féminin, la promotion du leadership féminin peut bien être un levier de développement. Mais alors là, cette femme leader doit être formée à la base et dans la cellule familiale. Et nous retenons également que les femmes doivent prendre conscience de leurs capacités. Alors là, les dames autour de cette table sont revenues largement sur cette question de prise de conscience et d'engagement vraiment dans la marche de leur communauté. Alors ces femmes doivent vraiment se former, viser leur autonomie et vraiment viser tout ce qu'elles doivent apporter dans la marche de leur communauté. Il ne s'agit pas que de parler ou de discours, mais vraiment d'action et concrète. Nous sommes au terme de ce forum. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Madame Fatih de la Confédération des ONG et associations féminines Congafen. Merci à vous, Madame Fatih, depuis Maradi. Alors, nous étions également avec Raya Issoufou Nadia de l'ONG Femmes Action et Développement. Merci d'être avec nous, Monsieur Alou Aye, qui matérialise cette masculinité positive dont on a besoin, dont on a vraiment besoin. Si vous nous avez suivis en cours de diffusion, pas de souci. Rendez-vous sur notre site internet www.studiokalangu.org et nos réseaux sociaux. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu. La technique est assurée par Amina Hassan. À bientôt.